Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast de Formanam. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sophie Nissen, qui est donc directrice de Formanam et qui va nous parler aujourd'hui d'innovation pédagogique ou plutôt de démystification de l'innovation pédagogique. Bonjour Sophie.
Bonjour Pauline.
Alors, peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Je remarque que tout au long de mon parcours professionnel, j'étais tour à tour enseignante, coordinatrice pédagogique et puis maintenant, depuis plusieurs années, directrice chez Formanam. L'innovation a toujours occupé une place centrale, en tout cas la réflexion autour de l'innovation pédagogique m'a toujours questionnée. Tant dans les projets que j'essayais de mettre en œuvre quand j'étais enseignante, et puis finalement ici au sein de Formanam, incubateur pédagogique où cette question de l'innovation en tout cas est assez récurrente.
Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation pédagogique ?
Avant tout, on va essayer de définir ce que ça n'est pas. Donc en général, l'innovation pédagogique, ce n'est pas une innovation technique ou technologique. Elle ne se suffit pas à elle-même. Donc ce n'est pas un produit comme des produits technologiques. C'est en ce sens que pour ça, quand on parle des technologies émergentes, à mon sens, on ne peut pas les considérer comme une innovation en tant que telle. En tout cas, on ne peut pas les détacher de l'utilisation que l'on en fait. Pourtant, dans l'économie capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on attend de l'innovation pédagogique, au même titre finalement que ces innovations techniques, technologiques, qu'elles participent à une forme de rentabilité de l'apprentissage. On a des indicateurs en termes de taux de réussite, d'employabilité ou encore de tests comparatifs. On connaît tous les tests PISA. Et donc l'innovation pédagogique s'inscrit dans une forme finalement de concurrence commerciale, même parfois entre établissements. On voit des établissements qui prônent telle et telle pédagogie pour attirer un petit peu les inscriptions. Il y a un peu cette concurrence qui s'installe, une escalade finalement à l'effet waouh et à toutes les dérives liées aux produits finalement commerciaux, technologiques. Il y a une forme d'injonction vraiment spectaculaire à l'innovation sous prétexte parfois de passer à côté de son rôle d'enseignant ou d'être un enseignant ringard. Il s'agit vraiment de produire de l'innovation comme une chaîne de production. On attend finalement du système éducatif, qu'il soit micro ou macro, qu'il produise de l'innovation. Mais honnêtement, même un innovateur technologique, ce n'est pas parce que vous allez lui demander d'être innovant qu'il va d'un coup de baguette magique être innovant. On ne peut pas produire de l'innovation finalement sur commande.
Donc tu distingues l'innovation des avancées technologiques de leur utilisation, mais sur quoi peut-on s'appuyer pour obtenir une définition plus précise de l'innovation pédagogique ?
Alors, l'innovation pédagogique, je fais référence à différents auteurs, peut être déterminée selon différentes dimensions. Et là, je vais reprendre notamment Françoise Cross, qui est spécialiste de l'innovation pédagogique au CNAM à Paris, qui définit 4 dimensions à prendre en compte quand on pense à l'innovation pédagogique. Alors, la première dimension à prendre en compte, ce sont les finalités. Les finalités de l'éducation, elles répondent finalement aux finalités de l'éducation dans un contexte qui est donné. C'est-à-dire finalement, qu'attend-on de l'éducation ? Qu'est-ce qu'une société attend de son système éducatif ? Que souhaite-t-on pour l'école, la formation de demain ? Quels citoyens souhaite-t-on pour le futur ? Mais aussi, finalement, qu'attend-on de l'enseignant de demain ? Quel est son rôle dans le paysage éducatif ? Et à ce titre, on prend régulièrement, pour exemple, les pays nordiques en termes d'innovation ou de modèle pédagogique. Mais on ne peut pas faire fi du contexte social et territorial dans lequel ces modèles, en tout cas, évoluent. Et donc, à mon sens, transposer un modèle d'un contexte à un autre s'avère souvent utopique, voire même contre-productif. Évidemment, prendre de l'inspiration, s'inspirer des bonnes pratiques, des essais et des erreurs d'un modèle s'avère pertinent, mais il faut vraiment faire attention en tout cas aux différentes dimensions contextuelles qui sont impactantes quand on souhaite implémenter ou construire une innovation pédagogique, qu'elle soit sociale, culturelle, financière, politique ou autre. Donc l'innovation pédagogique est vraiment étroitement liée au milieu dans lequel elle est ou elle sera implémentée. Et c'est en ce sens aussi que l'innovation, ben, finalement, se distingue de l'invention, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'elle soit reprise par un maximum de personnes, sinon elle reste vraiment au stade de l'invention. Alors, deuxième dimension identifiée par Françoise Krauss, elle est liée aux formes éducatives. Donc, on remarque finalement que les formes éducatives évoluent peu. Hein, on retrouve quand même régulièrement un maître, un sachant, un adulte face à des apprenants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Bon, cependant, à l'heure actuelle, les formes ont quand même tendance à évoluer. On a vu l'apparition notamment des MOOC. Hein, avant le Covid. Le Covid, évidemment, nous a obligés à intégrer toute une série de dimensions, notamment d'hybridation ou de distanciel. Mais est-ce que pour autant, toutes ces formes éducatives sont innovantes ? On peut se poser la question et on en reparlera. Et donc finalement, les formes varient peu tout au long finalement d'un cheminement temporel en termes de pédagogie nouvelle. Viennent ensuite alors les fonctions de l'innovation pédagogique. Donc l'éducation remplit depuis toujours deux fonctions incontournables, hein, que sont la socialisation et l'apprentissage. Et donc l'innovation tend à répondre de manière générale à ces deux fonctions. Mais aujourd'hui, s'ajoutent finalement des fonctions cachées, larvées, telles que l'efficience de l'éducation ou encore le développement professionnel dans l'enseignant, mais aussi finalement la volonté de produire des apprenants innovants qui devront à leur tour innover dans leur contexte professionnel. Enfin, quatrième dimension à prendre en compte quand on pense à l'innovation pédagogique, ce sont bien évidemment les acteurs. Les principaux acteurs et bénéficiaires sont bien entendu les apprenants. Mais il ne faut pas négliger le ou les concepteurs ou maîtres d'œuvre de l'innovation, à savoir régulièrement, ce sont les enseignants, le pédagogue ou en tout cas une équipe autour de l'innovation pédagogique. Et l'attitude face à l'innovation sera différente en fonction du rôle qu'il joue dans celle-ci. Quand on est concepteur, il y a un lien même émotionnel avec son innovation et donc on a tendance évidemment à l'implémenter beaucoup plus facilement. Mais quand celle-ci est imposée, le comportement va être évidemment différent. Donc quand l'innovation n'est pas conçue par son utilisateur, il y a une véritable démarche finalement d'adoption, voire de rejet de cette innovation. Et puis quand on parle des acteurs, il ne faut pas oublier toute une autre série d'acteurs qui gravitent autour de l'innovation mais qui ont une importance également. Ce sont les collègues, la direction, les managers ou les pouvoirs organisateurs, voire même les gouvernements. Et ce sont autant d'acteurs finalement qui seront des leviers ou des freins à la démarche d'innovation en éducation. Et donc l'innovation pédagogique se place résolument dans cette interaction sociale. Hein. Elle ne peut vraiment pas exister sans la personne qui la porte, l'enseignant, ni sans la personne sur laquelle porte l'innovation, à savoir l'apprenant. Donc c'est en ça que ce n'est pas un produit nouveau, comme on peut le concevoir quand on parle d'innovation dans la vie de tous les jours, hein, en termes technologiques, techniques. L'innovation pédagogique n'existe pas vraiment sans le contexte social et humain dans lequel il s'implémente.
Donc, tu nous as parlé de la définition de Françoise Krauss en quatre dimensions. Tu nous as aussi parlé de sa position comme interaction sociale. J'ai l'impression que définir l'innovation pédagogique n'est pas si simple.
Non, effectivement. Hein. Vous voyez que définir l'innovation en éducation, ça reste très compliqué et que ça dépend de multiples facteurs. D'ailleurs, les auteurs ne s'accordent pas sur une définition. Mais si on devait résumer, on peut dire finalement que l'innovation en éducation, c'est un processus de création, d'adoption et de mise en œuvre de nouvelles idées, de méthodes, d'outils, de technologies ou d'approches pédagogiques dans le but d'améliorer l'apprentissage des apprenants. Que cette innovation, elle vise à répondre aux besoins changeants de l'éducation, à optimiser les résultats d'apprentissage, à accroître l'efficacité de l'enseignement, à favoriser l'engagement des apprenants ou encore à s'adapter aux évolutions de la société. Et qu'elle peut prendre différentes formes, allant de l'intégration de nouvelles technologies à la révision de programmes d'études, en passant encore par la mise en place donc de méthodes pédagogiques novatrices. Et que de manière générale, l'innovation en éducation, elle cherche à préparer les apprenants aux défis de demain et à améliorer la qualité de l'enseignement tout au long de la vie.
Ok, donc ça sont, c'est la définition pardon, sur papier qui reprend bien tous les concepts. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le terrain ?
Oui, donc sur le terrain, si on s'attache effectivement à cette définition de l'innovation pédagogique, finalement c'est assez conséquent. Je ne suis pas certaine que les pédagogues, les enseignants, les formateurs finalement se reconnaissent hein, dans cette définition et qu'il y ait énormément d'enseignants, de pédagogues qui ont une innovation, en tout cas telle qu'on vient de la définir, à accrocher hein, comme une petite étoile à son CV. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, tout enseignant, tout formateur peut se considérer comme innovant. On a tous été, à un moment donné, dans nos pratiques, des pédagogues innovants, des innovateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avancer cela ? C'est parce que, selon moi, selon différents auteurs et même un rapport de l'OCDE paru en 2017, finalement, tout enseignant est un innovateur. En effet, quel enseignant ne souhaite pas à un moment donné améliorer l'apprentissage de ses apprenants, ne cherche pas à favoriser l'engagement des apprenants ou en tout cas n'a pas pour vocation de le répondre à des défis actuels et futurs. Et puis surtout, quel enseignant, quel formateur reproduit chaque jour, au long de sa session de formation, chaque année finalement, ces mêmes pratiques pédagogiques, un cours, un support qu'il a donné, un outil. Très rares sont les enseignants qui ne modifient pas, en tout cas tout au long de l'année, tout au long de leur carrière, leurs pratiques. Donc on peut vraiment être rassuré. En ce sens, on peut vraiment se considérer comme des innovateurs finalement. D'ailleurs, le terme innovation, qui aujourd'hui est plutôt associé à de l'inattendu, du surprenant, du spectaculaire, de l'inexistant, l'innovation est mise finalement à toutes les sauces. C'est bien souvent même un concept marketing. Mais à la base, finalement, le verbe « innover » vient du latin « innovare » qui signifie avant tout « revenir à renouveler, changer », ce qui finalement correspond davantage à ce qu'on peut entendre de l'innovation pédagogique. D'ailleurs, si on se réfère aux quatre types d'innovation définis aujourd'hui, hein, quand on parle d'innovation dans un terme vraiment général, à savoir l'innovation incrémentale, adjacente, de rupture ou radicale, l'enseignant, le formateur, il va plus souvent se situer dans l'innovation incrémentale ou ce que Alter appelle l'innovation ordinaire, c'est-à-dire plutôt une modification du quotidien, un apport de nouveautés, de créativité dans un contexte différent, mais surtout face à des apprenants sans cesse différents. Les apprenants que vous avez dans un groupe ne sont pas ceux que vous aurez dans un autre groupe, et les apprenants que vous avez aujourd'hui ne sont pas les apprenants de demain ou d'après-demain. Ce sont des personnes qui évoluent sans cesse et qui sont présents avec des dimensions différentes de jour en jour. Et donc finalement, ces petits changements, ces petites adaptations font partie de ce qu'on appelle finalement l'innovation pédagogique. Et ce sont cependant ces petits changements qui sont vraiment des petites adaptations fondamentales pour la continuité et l'efficacité de nos pratiques professionnelles. Donc effectivement, on ne produit pas une innovation spectaculaire tous les jours. Rares sont les véritables innovations éducation. Et si on reprend l'exemple de la classe du dehors, hein, qui a beaucoup de succès actuellement et sans remettre en cause la pertinence et le bien fondé de la pratique, nos ancêtres enseignants et pédagogues, hein, fin du 19e siècle, si on pense à De Croly, Freinet, l'éducation nouvelle, même si on remonte jusqu'à Socrate, hein, proposait déjà de faire classe à l'extérieur. Donc l'innovation pédagogique, elle est finalement davantage liée à la créativité et au degré de liberté laissé à l'enseignant de tester finalement et de mettre en œuvre différents courants pédagogiques finalement dont les combinaisons sont multiples. C'est ce qui fait que même si nos collègues se revendiquent d'une pédagogie active ou par projet, la manière dont chacun va les combiner va déboucher sur une pratique qui sera différente de son collègue. Donc on va davantage parler de créativité finalement en éducation.
Mmh. Est-ce que tu considères du coup qu'il existe une série de mythes liés à l'innovation pédagogique ?
Alors oui, et il n'y a pas que moi, effectivement, ce sont différents auteurs. Hein, et là, je reprends notamment André Tricot hein, dans son excellent ouvrage sur l'innovation pédagogique, au sein duquel il passe finalement en revue toute une série de mythes liés à l'innovation pédagogique. Il tente d'une part de vérifier si certaines pratiques sont réellement innovantes. Hein, on l'a vu avec l'exemple de la classe du dehors, mais ils tentent aussi d'évaluer finalement si ces pratiques qui sont dites innovantes ont un impact réellement positif sur l'apprentissage. Et donc, pour ce faire, il reprend toute une série de recherches et de méta-analyses liées aux différentes pratiques pédagogiques. Et il les compare finalement entre elles. Et pour prendre un exemple, si on reprend l'exemple des pédagogies actives, ce qui est d'ailleurs étrange hein, comme terme pédagogie active, puisque finalement, est-ce qu'on peut être un pédagogue non actif hein, on peut se poser la question, mais ces pédagogies dites actives, finalement, elles le sont en tout cas des degrés divers. Parce que ce qui est intéressant dans la pédagogie active, finalement, c'est plutôt de mettre son cerveau en activité. Et donc, même si, effectivement, elle s'avère très pertinente quand il s'agit de l'apprentissage, par exemple, d'un geste, quand il s'agit, par exemple, de l'apprentissage d'un concept, peu de recherches montrent, finalement, l'efficacité, en tout cas, de l'action. Et même, parfois, montrent cette action de manière contre-productive, puisque, finalement, l'apprenant va être davantage engagé dans le geste, plutôt que dans la compréhension et la réflexion. Donc l'important, c'est vraiment d'être actif cognitivement. Autre série de mythes, c'est tout ce qui est lié finalement aux neuromythes hein, qui influencent encore assez bien les pratiques pédagogiques. Hein. On parle de cerveau droit, cerveau gauche, des profils d'apprentissage, etc. Donc même si ça reste intéressant dans le cadre des pratiques pédagogiques, se reposer uniquement sur ces neuromythes peut sembler parfois contre-productif.
Mais alors pourquoi un enseignant est ou se dit-il plus ou moins innovant ?
Alors là, ça dépend de plusieurs facteurs également et je voudrais partager avec vous les résultats d'une recherche que j'ai eu l'occasion de mener. L'objectif était de comprendre finalement quels étaient les facteurs qui soutenaient ou non le comportement innovant des enseignants. Et donc on a étudié le lien entre la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle, l'autonomie, le soutien de la direction et ses comportements innovants. Et finalement, les résultats montrent que le sentiment d'efficacité, le soutien de l'entourage, l'autonomie prime sur la motivation, finalement l'envie d'innover, l'envie d'être créatif. Ainsi, les enseignants qui se sentent compétents et confiants contribuent davantage au processus d'innovation. Alors, sans rentrer dans les grandes théories, je vous renvoie vers Bandura ou Hagen, le sentiment d'efficacité personnelle, effectivement, permet à l'individu d'envisager et d'élaborer des solutions créatives. Ensuite, deuxième facteur intéressant, c'est le soutien de l'entourage qui est fondamental dans le processus d'innovation. Cette recherche a montré, d'autres recherches montrent finalement que plus l'entourage est soutenant, plus les acteurs s'engagent et poursuivent des comportements innovants. Alors ça peut être, ce soutien peut passer par une réelle reconnaissance des comportements innovants, ça peut être un soutien matériel, une valorisation, un soutien financier, mais parfois aussi tout simplement le fait d'apporter une attention bienveillante et intéressée aux pratiques pédagogiques d'un collègue ou d'un groupe peut être intéressant. Et donc que ce soit finalement les collègues, les directions, les managers, mais aussi finalement les pouvoirs organisateurs, à mon sens, une attention particulière devrait être portée sur ce soutien et ces directions, ces managers devraient être réellement attentifs à développer une forme de leadership soutenant et encourageant ces comportements innovants. C'est malheureusement encore trop souvent absent au sein des équipes éducatives auxquelles finalement on reproduit aussi un petit peu le schéma maître-élève, direction-enseignant et donc ça c'est parfois contre-productif également. Et enfin donc troisième facteur qui va influencer les comportements innovants, c'est l'autonomie qui est laissée à l'enseignant et qui lui permet de s'engager également dans l'innovation. Aujourd'hui, l'autonomie est quand même toute relative puisque finalement, elle ne peut s'exercer qu'au sein finalement d'un contexte assez micro, qui est plutôt la salle de classe, la salle de formation, puisqu'en dehors de celle-ci, il faut reconnaître que le contexte éducatif est quand même très codifié, cadré, et qu'en plus, cette autonomie a tendance actuellement à diminuer avec le nombre d'injonctions, notamment administratives, que l'on reçoit.
Ok, donc on a parlé de dimension de l'innovation pédagogique, on a démystifié l'innovation pédagogique, tu as aussi abordé les facteurs soutenant le comportement innovant, mais concrètement, comment peut-on traduire cela dans les pratiques de terrain ?
Alors, s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment d'oser être créatif et surtout de ne pas attendre pour innover, de se permettre de faire des erreurs, parce que finalement, le meilleur moyen de ne pas innover, c'est de ne pas essayer. Et pour illustrer cette démarche, je voudrais juste en quelques mots vous parler d'une logique d'innovation, qui est la logique effectuelle. On oppose souvent la logique effectuelle et la logique causale. C'est une chercheuse indienne, Sarah Sarasvati, qui étudiait les comportements d'entrepreneurs innovants, donc il y avait vraiment innové là dans le cadre de démarches plutôt d'innovation technique ou technologique, mais ça reste cependant intéressant au niveau de l'éducation. Et donc elle a mis en évidence le processus d'innovation qui répond davantage à une logique effectuelle. Alors, pour vous expliquer la logique effectuelle, je reprends toujours une image, celle de l'organisation de repas entre amis. Dans une logique causale, vous allez procéder à l'invitation d'une série d'amis qui vont vous répondre, s'ils sont présents ou pas. Attendre leur réponse, vous allez choisir un menu, vous allez choisir des recettes. En fonction de ces recettes, faire une liste de courses. Vous allez aller faire vos courses, cuisiner votre menu, recevoir vos amis. Et finalement, la soirée va se dérouler selon une logique qui était tout à fait prévue. Dans une logique effectuelle, reprenons cet exemple de repas entre amis, vous allez passer une journée avec une série d'amis et vous allez vous dire, tiens, on va terminer la soirée par un repas sympa. Certains vont pouvoir venir, d'autres pas, ce n'était pas prévu. Vous allez finalement leur demander de prendre ce qu'ils ont dans leur placard, vous allez regarder ce que vous avez dans votre frigo et ensemble, vous allez élaborer un menu avec plus ou moins de succès, tester des choses, mais vous allez passer une très bonne soirée également et finalement, cette soirée, elle a été totalement improvisée. Donc, dans cette logique causale, l'idée, c'est vraiment de partir des moyens, des contraintes dont on dispose, plutôt que d'attendre d'avoir tout sous la main. Il y a aussi une logique de co-construction avec les autres et finalement avec les bénéficiaires et de pouvoir se dire, on va tirer parti des surprises, mais aussi des erreurs. La logique vraiment de cette logique effectuelle, le principe de cette logique effectuelle, c'est vraiment de se dire, puisqu'on ne peut pas prédire le futur, autant le construire tous ensemble. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de cette logique effectuelle, des repas entre amis ? Quel est le lien avec la pédagogie ? À mon sens, c'est une logique qui doit vraiment être adoptée par les enseignants, les formateurs, parce qu'elle permet vraiment de se projeter dans le futur. Et donc, c'est une source de motivation, finalement, de se dire qu'on peut agir sur le futur. C'est rassurant. Et puis, ça correspond vraiment au métier, finalement, de l'enseignant, qui, de par le public auquel il s'adresse, des apprenants, il est obligé de se projeter vers l'avenir. Finalement, quand on enseigne, quand on forme, c'est bien dans une perspective d'agir sur le futur des apprenants, mais aussi finalement d'agir sur la société future. Ensuite, l'enseignant évolue vraiment dans un contexte incertain. On ne maîtrise jamais toutes les variables d'un contexte éducatif, et il existe toute une sorte d'imprévu qui arrive constamment quand on enseigne, aucune journée ne se ressemble. Et donc, il est important finalement que l'enseignant puisse rebondir sans cesse et faire face aux imprévus. Et plus il intégrera finalement cette logique effectuelle, plus il sera à l'aise avec l'imprévu, tout en maîtrisant finalement son fil conducteur, ses objectifs pédagogiques. Évidemment, certains ne sont pas à l'aise avec l'improvisation, donc c'est pour ça que cette logique effectuelle permet en tout cas de dépasser ce stade. Et puis enfin, la logique effectuelle, elle permet vraiment de prendre en compte la dimension de l'erreur. Elle laisse vraiment la place à l'inconnu et à l'essai. Et s'il y a bien un monde dans lequel l'erreur est encore très mal perçue, finalement, c'est bien le monde de l'éducation. Tant on parle souvent de l'erreur pour les apprenants, mais on en parle peu finalement au niveau des enseignants. Mais finalement, l'enseignement, c'est aussi une série de tâtonnements, d'essais, d'erreurs, des choses qui fonctionnent bien avec un groupe, mais qui ne fonctionnent pas du tout avec un autre. On a tous connu ça. Parce que finalement, la pédagogie, ce n'est pas une science exacte et qu'elle place vraiment l'humain, les relations humaines au centre de son existence. Si on pouvait prédire exactement comment chaque être humain apprend, finalement les livres, Internet et aujourd'hui l'IA suffiraient. Heureusement, l'humain n'est pas une machine et ne le sera a priori jamais. Donc l'enseignant, les formateurs ont encore vraiment des beaux jours devant eux. Et donc en ce sens, l'innovation pédagogique pour moi doit vraiment garder l'humain, mais aussi donc, le tâtonnement et la place de l'erreur au cœur du processus. Et finalement, c'est ce qui fait notre métier, c'est ce qui permet à l'enseignant d'avancer dans sa pratique, de se questionner, d'innover et donc par là même de monter en compétence. Ça crée vraiment les conditions favorables pour innover et en ce sens, c'est pour moi un véritable levier d'auto-formation qui doit absolument être encouragé et valorisé.
Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que l'innovation pédagogique répond davantage au désir de l'enseignant de se renouveler, de créer et de faire évoluer ses pratiques ?
Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment une manière d'entretenir son amour du métier, de maintenir sa motivation, son besoin de développement professionnel. Et donc c'est une manière d'entretenir son sentiment d'efficacité personnelle qui, à son tour, permettra finalement d'entretenir le processus d'innovation.
Ok, super. Merci beaucoup Sophie pour... Ces réflexions très, très intéressantes.
Merci Pauline et à Léo qui est à la technique pour ce premier podcast.